Permettez-moi de vous poser une question d'ordre général. Vous pouvez choisir d'y répondre d'une manière générale ou d'une façon plus précise. Cela dépend de ce que vous pensez ou de votre contexte. La question est la suivante. Combien faut-il de personnes pour changer les choses ou pour faire une différence? Combien de personnes faut-il pour faire la différence? Maintenant, si nous pensons en termes de groupe, en parlant de quelque chose d'imminent pour notre pays, l'élection présidentielle, alors évidemment le mot « majorité » indiquerait probablement que vous avez une chance de participer pour faire la différence. Cela revient à ignorer le collège électoral dans une certaine mesure. Vous pourriez gagner l'élection du point de vue populiste, mais perdre le collège électoral. Et alors votre vote pourrait, ou non, faire la différence pour contribuer à la victoire. Si vous pensez à un comité, prenons par exemple la Cour suprême des États-Unis, il arrive qu'ils ne prennent pas de décision. Mais s'ils sont 9, s'ils prennent une décision, c'est encore une fois sur la base de la majorité. Ils peuvent exprimer leur divergence, mais celui qui a la majorité dans une décision, c'est lui qui a contribué à faire la différence. Toutefois, ma question porte davantage sur des considérations particulières en matière sociale, personnelle et religieuse pour ceux d'entre nous qui sont dans l'Église. Combien d'entre nous faut-il pour faire la différence? Dans ce cas particulier, pour des questions personnelles, parfois sociales et religieuses, la réponse est une seule personne. J'ai apporté un petit livre intitulé One, un ou une. Tout ce qu'il contient n'est pas forcément utile, ou disons pertinent pour nous sur le plan de la religion. Mais il y a quelques passages, quelques pages, et j'en lirai une plus tard, qui montrent qu'il suffit d'une seule personne pour faire la différence. En tout cas, dans certaines circonstances, la Bible rapporte de nombreux exemples où une seule personne a fait une grande différence. Cet après-midi, j'aimerais passer en revue certains d'entre eux, puis appliquer ce principe à notre propre vie aujourd'hui. Vous comprendrez très vite où je veux en venir, du moins en ce qui concerne la première partie des exemples. Reportons-nous à Nombre 21, et lisons brièvement un récit sur Moïse. Au fil des ans, nous avons répété certains de ces récits à maintes reprises au cours de nos assemblées. Dans Nombre 21, nous commencerons la lecture au verset 4. Il est dit, Nombre 21, verset 4, « Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. » Peut-être que lorsqu'ils ont réalisé la nature de leur voyage, nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait cette région à l'époque, mais aujourd'hui, vous regardez cette partie de la côte est de la mer Rouge, elle semble plutôt stérile. Ce territoire n'est pas un bon endroit pour faire de la randonnée. Au verset 5, le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Si vous revenez en arrière, vous verrez qu'Exode 16 relate le don de la manne. Ils voulaient quelque chose à manger, et Dieu leur a donné la manne qui les a satisfaits pendant un certain temps. Mais là, maintenant, elle n'a plus aucune valeur. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Nombre 21, verset 6, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. » Ils reconnaissent rapidement leur erreur, car les gens meurent à cause des serpents qui les mordent. » Verset 7, « Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Une façon formelle de reconnaître que Dieu allait intervenir. Et Moïse a prié. Il voulait que Moïse prie. Là encore, rien n'indique qu'eux priaient. Ils ont peut-être prié en silence, qui sait ce qu'ils pensaient, mais ils allèrent vers Moïse. Et ce que Moïse fit a manifestement fait la différence. Et Dieu a entendu cette prière. Dans Nombre 11, je vais simplement le mentionner ici, Nombre 11, versets 1 à 3, il est question d'Israël qui avait l'habitude de se plaindre. Mais là, c'était apparemment davantage, du moins d'après le compte-rendu, bien plus qu'ils ne prenaient le temps d'être reconnaissants. Alors qu'ils se plaignaient, le feu commença à brûler certains individus dans l'enceinte du camp, à la périphérie, et le peuple a de nouveau demandé à Moïse de prier à ce sujet. Moïse a prié, et Dieu est intervenu en retirant le feu, de sorte qu'ils n'ont pas été brûlés. Il est donc clair que Moïse, par sa conduite, a fait la différence pour Israël. Dans Nombre 12, et pratiquement tout le chapitre est consacré à ce sujet, mais les trois premiers versets en particulier racontent comment Marie et Aaron critiquèrent Moïse. Ils commencèrent à se demander, du moins dans leur esprit, pourquoi Moïse était le seul à pouvoir les diriger? Dieu n'avait-il pas parlé à Aaron et à Marie? En critiquant Moïse et en s'affirmant eux-mêmes, Dieu était irrité. Il est intervenu dans ce cas et a frappé Marie de la lèpre. Il n'est pas dit qu'Aaron ait souffert de quoi que ce soit, nous ne le savons pas. Mais il est dit que lorsqu'Aaron l'a regardé, il a été surpris et effrayé par cette lèpre. Il se tourna vers son frère et lui dit « Prie pour nous, nous avons fait une erreur. » On aurait pu penser qu'ils auraient déjà appris la leçon par ce qui se passait avec la nation avant ce cas précis. Que ce n'était pas une bonne idée de s'opposer à Moïse et de le critiquer. Je pense que Moïse a probablement été choqué lui aussi. Car cela s'est passé très rapidement, très soudainement. Et il est dit que Moïse cria à Dieu d'enlever la lèpre et de la guérir. À ce moment-là, sa sœur s'est transformée en lépreuse, ce qui l'a surpris. Pourtant, dans ce moment d'anxiété, où il souhaitait que Dieu intervienne, il fallait qu'il y ait un moment de pardon. Il ne leur en voulait pas, contrairement à ce qu'il aurait pu dire, « Pourquoi devrais-je prier pour toi après ce que vous m'avez dit? » Il n'y avait pas de retour d'animosité envers sa sœur. Il pria pour elle. Dans ce cas, Dieu répondit à Moïse, et Moïse a fait la différence. Reportons-nous à Hébreux 11. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a prêté attention à Moïse. De nombreux exemples sont donnés dans les récits que Moïse a écrits. Hébreux 11, versets 24 à 26, mentionne que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, lorsqu'il a atteint l'âge adulte, Moïse a reconnu qui il était et ce qu'il était, c'est-à-dire un Israélite. Nous ne savons pas s'il a compris qu'il était lévite ou non, mais à ce moment-là, il a réalisé qu'il était israélite, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ. Il est venu à comprendre cette opprobre. Il ne fait aucun doute que le Dieu de l'Ancien Testament a révélé beaucoup de choses à son serviteur Moïse. Verset 26. regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le don, l'opportunité de faire partie du royaume de Dieu, dont il savait certainement qu'il viendrait avec le temps. Je me sens à l'aise de penser qu'il comprenait ce que l'avenir lui réservait à lui et au peuple de Dieu. Lorsqu'il a pris cette décision, il n'est pas dit qu'il savait ce que serait son avenir, le genre de choses que l'on attendrait de lui, qu'il devait s'éloigner pendant 40 ans, peut-être pour être formé et se préparer à ce qui se passerait lorsqu'il retournera en Égypte, mais il pouvait alors s'appuyer sur Dieu et faire la différence. Revenons maintenant à Nombre 25. Nombre 25, versets 3 à 9. Nous soulignerons ceci très rapidement. Nombre 25, versets 3 à 9. Au verset 3, Israël a péché contre Dieu. Et au verset 5, Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Car il nous est dit au verset 3 qu'Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors au verset 5, il nous est dit que ces hommes doivent être mis à mort. Puis verset 6, « Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse, avec arrogance ici, et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Il s'agissait d'un endroit très spécial, juste devant le tabernacle où Dieu, le Christ, apparaissait. C'est là qu'ils se sont présentés. Et au verset 7, « Et à cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main, et suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. » On pourrait dire que sans Phiné, nous ne savons pas ce qui se serait passé, mais 24 000 personnes sont mortes. Il s'agissait d'une pénalité énorme et souffrante, mais un homme est intervenu et a fait quelque chose pour lequel Dieu l'a honoré. Il a fait la différence. Nous ne pouvons pas savoir combien d'autres personnes seraient mortes si cela ne s'était pas produit. Un homme a fait la différence. Qu'en est-il d'Élie? Reportons-nous à 1 roi 17. 1 roi 17, versets 1 à 3. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Élie entre en scène, et il n'y a pas de contexte. Il y a une mention qu'il était un Tishbite, et il y a des spéculations sur la région où cela se trouvait parmi les habitants de Galaad, mais aucune autre information n'est donnée à son sujet. Lorsque cela arriva, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. » Il a dit ce qu'il avait à dire et il partit. C'était l'avertissement qu'il n'y aurait pas de pluie pendant des années, sauf sur sa parole. 1 roi 18, débutant au verset 36, 1 roi 18, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui y ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, la pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Ceci est sa prière, Et puis au verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Au moins pour un temps, ils sont retournés à Dieu. Au verset 41, après que tout cela est fait, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » Et au verset 44, à la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Il pria, et la pluie tomba. Reportons-nous au livre de Jacques. Jacques nous donne un aperçu supplémentaire qui n'est pas détaillé dans le récit des rois. Dans Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Au verset 17, il nous est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il était très humain. Et nous savons que plus tard, après ces épisodes, il eut peur. Mais Jacques souligne qu'il était un homme avec une nature comme la nôtre. Et le genre d'influence qu'il pouvait avoir, le genre de différence qu'il pouvait faire parce qu'il avait confiance en Dieu. Verset 17, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Cela n'est pas rapporté dans les rois. Mais il se présente et avertit Achab parce qu'il sait que Dieu va arrêter la pluie. Il a prié sincèrement pour qu'il ne pleuve pas et, pour une raison quelconque, Dieu l'a inspiré. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le récit parallèle montre qu'après ce temps, il s'est agenouillé et a prié. Puis il pria de nouveau, verset 18, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il y a donc 2 moments, 2 points où Élie a certainement fait la différence. Une personne et son influence. Il y a encore 2 ou 3 autres personnes dont nous pourrions regarder l'influence. Nous pourrions nous tourner vers le livre d'Esther et lire l'histoire d'Esther et de Mardoché, 2 personnes. Esther devient reine, et après une décision du roi, alors que la loi ne lui permet pas de se présenter devant le roi sans qu'il ait demandé sa présence, pourtant, parce qu'elle est juive, et nous comprenons ce qui s'est passé, même si nous n'entrerons pas dans les détails, sa vie était menacée, ainsi que celle de tous les Juifs à cause de ce qu'Aman avait fait décréter au roi par la ruse. Dans Esther chapitre 4, Mardoché lui dit, « Tu dois faire quelque chose. » Et elle a dit, « Eh bien, cela pourrait me coûter la vie. » Malgré le danger, Mardoché lui dit, « Penses-tu que tu vas échapper? Tu es déjà condamné à mourir. » Alors elle a choisi de faire quelque chose. Elle a jeûné. Ses servantes ont jeûné. Mardoché a jeûné. Et les Juifs ont jeûné. Ces individus, en faisant leur part, et Esther, en allant devant le roi sans permission, ont réussi à faire en sorte que les Juifs soient épargnés. Dieu s'est manifestement impliqué dans toute cette affaire. Les humains n'ont pas fait ces choses seuls. C'est Dieu qui les a fait, mais ils ont agi comme ses serviteurs. Ainsi, 2 individus, travaillant ensemble, ont fait la différence. Nous pouvons parler d'Abraham, ou en de nombreuses occasions, je suppose, non, je ne suppose pas, nous pourrions absolument le faire, il a fait une différence. Mais cela prendrait plus de temps que nous n'en avons pour l'instant. Mais qui ou quel individu a fait la plus grande différence? Jésus-Christ. Il a été décrit comme étant la parole qui s'est fait chair. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a renoncé à l'immortalité afin de faire quelque chose pour notre salut. Nous pourrions nous référer à un certain nombre d'écritures pour l'expliquer. Nous n'y reviendrons pas dans ce contexte, mais il est certain que le Christ a fait la différence pour notre salut, et pas seulement pour notre salut spirituel, mais aussi pour notre guérison. L'accès aux bénédictions que nous avons et à l'appel qui est la nôtre. Ce sont des individus qui ont fait la différence. Une personne à la fois a fait la différence dans la manière dont Dieu a traité son peuple. Et cela peut être aussi vrai aujourd'hui. À quoi cela nous concerne-t-il? Je sais qu'aucun d'entre nous n'oserait penser que, d'une manière ou d'une autre, nous serons confrontés à des circonstances comme celles que je viens d'évoquer, parce que ce n'est pas la manière dont Dieu travaille aujourd'hui. Il s'occupe des individus d'une manière distincte. Mais il y en a quelques-uns auxquels nous pourrions nous référer aujourd'hui. Monsieur Armstrong est un homme qui a fait une différence. Dieu l'a utilisé puissamment pour élever son Église, relever sa vérité et son plan de salut. Et je pense à juste titre que nous pourrions dire que Monsieur Ames a fait une différence dans nos vies et dans les vies, comme nous l'avons souligné dans les commentaires précédents, de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes qui ont bénéficié de son travail, de ses efforts. La plupart d'entre nous ne se mettraient pas dans une telle position, pensant que nous aurions un jour l'occasion de faire une différence qui influencerait autant de personnes, et certainement pas comme ce qui nous est rapporté dans l'Ancien Testament. Voyons donc comment ce principe s'applique à nous. J'aimerais lire quelques notes, c'est très bref, où il est question de probabilité. Dans ce cas, il s'agit de la probabilité que l'un d'entre nous naisse exactement comme il est aujourd'hui. C'est très peu probable, mais considérons cela d'un point de vue philosophique, si l'on veut. Voici quelques exemples. Quelles sont les chances de jouer une partie de quilles parfaite en obtenant 300 points? C'est intéressant, c'est 1 sur 11 500. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces statistiques, mais c'est ce qui est donné. J'ai présenté certaines de ces données dans le cadre d'un forum de l'éducation vivante et j'ai demandé, y a-t-il quelqu'un ici qui a obtenu 300 points au quille? Un jeune homme a levé la main. Eh bien, vous êtes l'un des 11 500 jeunes hommes. Quelles sont les probabilités? Quelle est la probabilité d'être frappé par la foudre? 1 sur 576 000. Quelles sont les chances d'obtenir une quinte flush royale sur vos 5 premières cartes au poker? 1 sur 649 740. Quelles sont les chances de devenir président des États-Unis, si cela vous intéresserait? 1 sur 10 millions. 1 sur 10 millions. Quelles sont les chances de gagner le gros lot à la loterie? 1 sur 175 millions. Il est intéressant de réfléchir à ces points concernant les probabilités. Quelle est la probabilité que ces choses nous arrivent? Qu'en est-il de nous? Quelles sont les probabilités que l'un d'entre nous fasse partie de l'Église de Dieu? Vous avez peut-être déjà envisagé la question sous cet angle. Nous avons parlé un peu de probabilité que nous avons de faire partie de l'Église de Dieu, mais hier, j'ai fait quelques recherches sur la population des États-Unis âgée de 18 ans et plus. Elle est estimée actuellement à 267 millions aux États-Unis. J'ai choisi 18 ans et plus, c'est la population adulte. À l'heure actuelle, et je pense que je ne suis pas loin, vous pourriez vérifier auprès de M. McNair après l'Assemblée pour obtenir le nombre exact, mais je crois que c'est assez proche. Combien y a-t-il de membres baptisés dans l'Église de Dieu aux États-Unis? Environ 4300. Soit 4300 sur 267 millions. Il s'agit de 18 ans et plus, des adultes. Nous ne baptisons pas les enfants, nous baptisons parfois de jeunes gens de 18 ans. Ce n'est pas très courant, mais nous le faisons à l'occasion. J'ai donc choisi la catégorie des adultes, donc 4300 membres baptisés adultes sur 267 millions. Et si j'ai bien fait le calcul, et certains d'entre vous sont meilleurs en maths que moi. La mémoire n'est plus ce qu'elle était. J'étais assez bon en maths, mais plus maintenant. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que cela représente? C'est 0.0016%, soit 16 millièmes de 1% d'un nombre très grand de 267 millions. Maintenant, imaginez que 16 millièmes d'1% représente la probabilité d'appartenir à l'Église de Dieu, à l'Église du Dieu vivant. À l'échelle mondiale, avec une population de 8 milliards, c'est une toute autre affaire. Le pourcentage est encore beaucoup plus petit. Chacun d'entre nous est donc une denrée rare. Nous sommes un petit nombre de personnes précieuses à travers lesquelles Dieu a choisi de travailler. Je poserai donc une question rhétorique. Quelle est la valeur de votre prière, de ma prière? Pour faire une différence dans l'Église de Dieu et dans l'œuvre de Dieu, car nous ne sommes que 4300 à prier pour l'œuvre de cette manière. Je crois qu'il est très important de penser que nous savons qu'il est crucial que chacun prie sincèrement. En tant qu'Église, nous avons la responsabilité collective de le faire, mais chacun d'entre nous a la responsabilité individuelle de le faire, sans penser aux 4300 d'entre nous. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Je sais qu'il y a des gens dans le monde et dans d'autres églises qui pratiquent la dîme. Ils parlent aux foules et de ce que l'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils paient et prient. Cela peut parfois sembler être le cas pour nous, mais cela ne devrait pas l'être dans notre esprit. Nous payons la dîme parce que Dieu nous dit de le faire. Mais en plus de payer nos dîmes, ce sont nos prières qui font la différence. Car nous demandons à Dieu de guider pour l'utilisation de cet argent, de bénir la quantité d'argent que nous avons, et dans l'ensemble, le budget dont nous disposons n'est pas très élevé, mais nous devons l'utiliser avec sagesse. Qu'en est-il de la réalisation de l'œuvre alors que nous nous posons des questions sur sa progression presque chaque semaine? Nous vous remercions de vos prières pour les conférences du monde de demain qui sont menées, et parfois ces choses peuvent devenir routinières si nous n'y prenons pas garde. Mais nos prières individuelles peuvent faire la différence. Nous nous posons des questions sur les émissions, les sujets choisis. D'où viennent ces titres? D'où vient le contenu? J'ai trouvé que l'émission que nous avons visionnée aujourd'hui, diffusée il y a environ 2 mois, était magnifique. En 22 minutes environ, une énorme quantité d'informations sur ce que Dieu attend de nous a été partagée avec nous, avec des centaines et même des milliers d'autres personnes. Nous prions pour le contenu, nous prions pour le montage, nous prions pour toute l'équipe qui se trouve derrière la production. Quelqu'un doit écrire le scénario, un homme doit le présenter, et il est généralement révisé. Il est assemblé et préparé pour la diffusion. Nous prions pour toutes ces choses car elles sont vraiment importantes. L'une des choses que je voudrais lire maintenant, qui m'a frappé et en lien avec mon sujet, est cette histoire tirée du livre One. Combien faut-il être pour faire la différence? Soyez indulgents avec moi, je vais vous lire quelques paragraphes de ce livre. Dans son livre « Teaching the Elephant to Dance », enseigner un éléphant à danser, l'auteur Jim Belasco raconte l'histoire du docteur Denton Cooley, un célèbre chirurgien cardiaque. Ceux d'entre vous qui ont mon âge ont plus de chances de se souvenir de ce nom. Il était l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques de son époque, au début du 20e siècle. Un jour, le docteur Belasco suivait le docteur Cooley dans ses tournées, et en route vers la salle d'opération, il vit le chirurgien s'arrêter pour parler à un homme qui passait la serpillière dans le couloir. Pardonnez-moi si je suis un peu émotif. Chaque fois que je lis cela, c'est incroyable. Ce n'est pas un exemple de la Bible, mais c'est tout de même étonnant. Les deux hommes discutaient pendant près de 10 minutes avant que le docteur Cooley ne se précipite dans la salle d'opération. Curieux, Balasko s'est approché de l'homme à la serpillière et lui a dit « Eh bien, c'était une longue conversation. » Et l'homme répond « Oui. Le docteur Cooley et moi parlons souvent. Réfléchissons à ce que nous percevons, à ce que nous recherchons, à ce que nous pensons lorsque nous nous rendons dans un hôpital. Nous remarquons que les sols sont propres, que les chambres sont propres, parce que quelqu'un fait le travail. Mais il est tout de même fascinant qu'ils disent « Le docteur Cooley et moi discutons souvent. » Puis Balasko demande « Que faites-vous exactement à l'hôpital ?» Et l'homme debout avec la serpillière fait une pause. Et l'homme a répondu « Nous sauvons des vies. » Pas le docteur Cooley. Nous sauvons des vies. Car ce que le docteur Cooley a pu expliquer à cet homme, c'est que tous ceux qui travaillaient à l'hôpital contribuaient à prendre soin des personnes qui étaient là pour bénéficier du service médical. Dans les meilleures organisations, il n'y a pas de différence entre eux et nous. Il n'y a que nous. Nous travaillons tous ensemble. Dans l'ensemble, chacun a un rôle unique à jouer. Chacun a une pièce du casse-tête. Chacun a la possibilité de faire la différence. Je pense que c'est une histoire étonnante qu'un être humain puisse faire ce lien avec quelqu'un qui en fait partie. Dans un grand hôpital, il y a des centaines d'employés. Et pourtant, un homme, au sommet de la hiérarchie, a pris le temps de partager son appréciation pour ceux qui travaillaient là aussi, en faisant des choses qui, selon lui, contribuaient à la réussite de l'hôpital. Pouvons-nous donc apprécier l'importance de notre contribution individuelle? La parole de Dieu nous le dit. Reportons-nous à Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35 à 38. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il savait, puisqu'il a évidemment participé à développer le plan, que le monde n'allait pas comprendre tout ce qu'il prêchait. Cela a été donné aux disciples pour qu'ils le comprennent et le partagent. Il savait qu'il s'agissait d'une phase intermédiaire. Mais même s'il savait ce qui allait arriver dans le futur, il avait encore de la compassion pour ces gens. Poursuivons verset 37. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Combien de fois avons-nous lu cela? Nous n'avons pas une surabondance de ministres. C'est une chose pour laquelle nous devrions prier. Chacun d'entre nous peut y contribuer en reconnaissant l'urgence de ce besoin. À l'occasion, nous travaillons sur le plan administratif. Le Dr Wenin est ici, il est impliqué dans ce domaine. M. McNair est dans l'administration de l'Église. Et des urgences ou autres surviennent. Mais comment faisons-nous face à cela? C'est comment déplacer des pièces sur un échiquier. Si vous en déplacez une, vous laissez un espace vide. C'est difficile. Nous avons besoin de plus de ministres, de plus de travailleurs. Et bien sûr, pour cela, si vous voulez embaucher plus de personnes, nous avons besoin de plus d'argent. Mais Dieu ne nous a pas donné des chances comparables à celles de la loterie. Nous ne sommes pas un sur 750 millions à tenter notre chance pour soutenir l'Église de Dieu. Dieu est en charge. Mais nous utilisons tout ce qu'il nous fournit. Et nous pouvons demander qu'il en soit ainsi. Notre responsabilité individuelle va dans ce sens, car, encore une fois, ce n'est pas eux, mais nous, c'est nous. Il n'y a pas un seul individu qui devrait être laissé de côté. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 1, 2 Thessaloniciens 3, verset 1, Paul écrit ici aux Thessaloniciens, au verset 1, au verset 1, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » L'Évangile pouvait être prêché. L'œuvre pouvait être accomplie. Le royaume pouvait être prêché. Paul demandait à cette congrégation de prier, et chacun d'entre nous, si Dieu le veut, prie chaque jour à ce sujet. Nous prions pour l'œuvre. C'est une responsabilité individuelle de s'en souvenir. En passant au livre 1, reportons-nous à Éphésiens. Et vous savez sans doute où je veux en venir. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Encore une fois, pensez à la petite histoire du docteur Cooley et du concierge. Dans Éphésiens 4, verset 11, Paul écrivit, Et il, Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ressemblions de plus en plus au Christ, et que nous soyons à la hauteur de son image. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, et les idées qui sont à l'extérieur qui peuvent nous faire trébucher si nous ne sommes pas attentifs, par leurs ruses dans des moyens de séduction. Il y a des gens qui sonnent bien, qui présentent une bonne histoire avec une motivation. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, une analogie d'un corps physique ici, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous contribuons individuellement au bien-être du corps de l'Église de Dieu. Le Christ est notre tête, et chacun d'entre nous a cette responsabilité individuelle de faire fonctionner l'ensemble de manière à ce que le Christ puisse nous utiliser en tant que son peuple pour accomplir son œuvre. C'est un peu comme ce que le docteur Cooley a pu faire avec le concierge. Il lui parlait souvent. Ce n'était donc pas un simple échange en passant. Combien de fois nous assurons-nous que nous contribuons à faire la différence? Il est très, très important que nous le fassions. Que pouvons-nous faire à cet égard? Où pouvez-vous faire la différence? Commencer à prier pour l'œuvre. Pourquoi ne pas faire la différence en ayant à l'esprit de faire la différence dans vos familles? De faire la différence en tant que mari? De faire la différence en tant qu'épouse? Indépendamment de la manière dont votre conjoint fait la différence. Faire la différence en tant que bon parent. en s'assurant que nous nous dévouons de la bonne manière et que nous donnons un bon exemple à nos enfants. Et si nous laissions simplement briller notre lumière? Bon nombre d'entre vous travaillent au siège central. Vous travaillez dans l'Église. Et déjà, votre lumière brille pour les membres. Votre contribution, votre attitude, votre dévouement, votre zèle démontrent ces choses à vos frères et sœurs, les encourageant, je l'espère, à répondre de la même manière. Dans un esprit de coopération, l'esprit d'ambition mutuelle de faire l'œuvre de Dieu pour représenter le corps de Christ en communiquant efficacement et en travaillant volontiers en équipe pour faire l'œuvre. La plupart d'entre nous ne travaillent pas au siège central. Nous sommes des associés au travail. Si nous laissons briller nos lumières en ne nous associant pas au mauvais type de comportement, au mauvais genre de langage et au mauvais type d'humour. Nous nous en éloignons et ceux qui s'y adonnent remarquent que nous n'utilisons pas le même langage. Ils remarquent que nous ne rions pas aux mêmes blagues qu'eux. Nous laissons briller notre lumière en acceptant d'aider un collègue. Se porter volontaire pour aider un collègue est important pour accomplir le travail de notre employeur ou, s'il s'agit de notre entreprise, pour être prêt à accomplir toute mission qui fait partie du travail. Si vous avez une entreprise, il est important de faire tous les aspects de ce travail pour réussir et partager la charge de travail avec ceux qui travaillent pour vous. D'une manière générale, il s'agit de faire preuve de gentillesse. Qu'il s'agisse de tenir la porte à une dame qui entre ou qui sort du magasin, ou d'aider quelqu'un à faire ses courses. Si le magasin n'offre pas ce service, se porter volontaire pour aider une personne âgée qui a besoin d'assistance peut faire la différence. Parfois, le simple fait de dire « bonjour » peut faire la différence. Nous ne le savons pas. Le livre raconte l'histoire d'un élève qui ne faisait pas partie des jeunes populaires et à qui l'on parlait rarement. L'un des enseignants l'a remarqué et lui a simplement dit bonjour tous les jours. À la fin de l'année scolaire, l'élève a donné une carte à cet enseignant et lui a dit « Merci de m'avoir parlé tous les jours. » Une carte toute simple. Personne d'autre ne se souciait de lui. Parfois, le simple fait de dire bonjour peut faire la différence et offrir de l'aide. Revenons à Jacques, chapitre 5. Remarquons quelques versets ici. Jacques, chapitre 5, versets 15 et 16. Versets 15 et 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Lorsque des demandes de prière sont envoyées à nos congrégations, certainement c'est approprié. Mais nous pourrions tomber dans le piège de penser que si nous sommes suffisamment nombreux à prier, le volume convaincra Dieu de le faire. Ce n'est pas le cas. Il faut espérer que tous ceux qui prient le font efficacement. La prière efficace et fervente d'une personne juste est d'une grande utilité. Nous savons ce qu'il faut pour qu'une prière soit exaucée. Nous devons être obéissants. Nous devons avoir la foi. Nous devons demander selon la volonté de Dieu. Toutes ces choses sont essentielles lorsque nous prions. Mais individuellement, lorsque quelqu'un est malade ou blessé, la prière efficace et fervente d'une personne juste peut faire la différence. Le nombre de personnes qui prient n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous prions dans cet état d'esprit. Reportons-nous à Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Réfléchissons à la manière dont nous prions les uns pour les autres, pour nos frères et sœurs, et à la manière dont nous faisons briller notre lumière auprès de ceux qui ne sont pas nos frères. Galates 6, verset 10 nous dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. » Parfois, nous devons chercher des occasions. Nous pourrions trébucher sur l'une d'entre elles si nous ne faisions pas attention. Mais lorsque nous avons l'occasion et que nous la voyons, faisons du bien à tous. Pratiquons le bien envers tous. Cela signifie qu'il faut réagir positivement et ne pas répondre de manière négative lorsqu'une personne nous maltraite ou nous parle de manière désagréable. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Soyons prêts à nous servir les uns les autres et à nous aider mutuellement. Et en revenant à Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, voici quelques versets qui me semblent pertinents. Surtout qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Nous sommes tous vulnérables. Ce n'est pas le bon mot, il est trop fort. Mais nous sommes la cible de Satan, de fausses idées ou de contre-vérités. Au verset 19 et 20 de Jacques 5, il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. » Certaines Écritures nous disent que si quelqu'un est belliqueux ou ne veut pas changer, nous devons le marquer. Mais si quelqu'un parmi vous s'éloigne de la vérité, ils ont la vérité, mais ils s'en éloignent, il se peut qu'il ne soit pas approprié de fraterniser avec cette personne. Si vous vous souvenez de l'article que M. Weston a écrit, il a dit que certaines choses sont plus importantes que l'amitié. C'est vrai, quelqu'un qui s'éloigne de la vérité peut avoir besoin d'être marqué, et nous ne devrions pas fraterniser avec lui, en fonction de la gravité et du contexte. Mais remarquez ceci, et quelqu'un d'autre l'y ramène. Ce n'est pas parce que nous ne fraternisons pas avec quelqu'un à un moment précis en raison d'un problème personnel ou d'une situation que nous ne pouvons pas prier pour que Dieu le fasse revenir. L'absence de fraternisation est un élément qui peut faire que cela leur manque et qu'ils veulent revenir. Nos prières pour eux peuvent être un très grand stimulant pour cela. Et au verset 20, qu'ils sachent que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, faire la différence, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Encore une fois, nous avons tous nos faiblesses. Aucun d'entre nous n'est parfait. Dans un esprit de pardon et de sollicitude, par opposition à un rejet catégorique, nous devrions faire preuve d'un esprit d'amour qui se manifeste par une prière sincère pour un frère ou une sœur dans la foi qui pourrait être à la dérive. Nous ne pouvons pas être juges de la vie privée des gens. Parfois, nous savons que nous tombons dans des situations difficiles. Priez les uns pour les autres. Transformez notre amour en une prière fervente et aidez quelqu'un à se détourner de ce qui est mal. Dans ce contexte, reportons-nous à Daniel. Daniel 12. Vous connaissez ce verset. La raison pour laquelle ce verset m'est venu à l'esprit en préparant ce sermon est qu'il figurait sur la petite feuille du programme que la famille a choisi de faire lors de la funéraille de M. Ames. L'un de ses versets préférés, en raison de ce qu'il signifie et de ce qu'il a fait. Mais encore une fois, nous avons la responsabilité individuelle de faire la différence. En faisant l'œuvre, en nous soutenant les uns les autres, en priant les uns pour les autres, en étant solidaires, en fraternisant et en étant gentils et doux les uns avec les autres. Daniel 12, verset 3. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Nous avons besoin de plus d'ouvriers. La moisson est grande. Pour la majorité d'entre nous, en dehors de notre participation à l'œuvre de Dieu aujourd'hui, à la prédication de l'Évangile et à la qualification pour le royaume de Dieu, alors en tant qu'être spirituel, faisant partie de la famille de Dieu, littéralement, spirituellement, nous aurons l'opportunité de convertir des millions et des milliards de personnes à la justice. Nous aurons la possibilité de participer avec beaucoup, non plus avec un seul, mais avec beaucoup qui ont la potentialité de faire la différence. Dieu nous a appelés à participer à son œuvre. Les probabilités que nous fassions partie de son œuvre sont très, très faibles par rapport au reste du monde. Cette constatation, cette pression sur nous, si vous voulez, nous oblige à être des individus prêts à faire la différence dans notre propre vie et à soutenir l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions avoir l'occasion de convertir des millions et des milliards de gens à la justice et à embrasser le mode de vie de Dieu.